Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. On a d'habitude l'actualité de toute la semaine qu'on couvre. Aujourd'hui, c'est un épisode différent, un épisode spécial. On va parler de psychologie, de psychothérapie, de plein de choses psy qui sont très compliquées mais qui sont aussi hyper intéressantes et de plein de choses qu'il y a autour. Comment est-ce que ces métiers ont été impactés par le numérique et comment est-ce que le numérique a impacté des questions qui se posent dans ces domaines. J'espère que ça va vous intéresser. Je suis Patrick Béja et donc nous faisons le Rendez-vous Tech, le podcast qui couvre toute la technologie, Internet et les gadgets, et parfois des petits épisodes spéciaux où on parle d'un sujet spécifique. Pour nous parler de tout ça, je suis heureux de recevoir aujourd'hui Benjamin Lubzinski, qu'on lit en version bien française. Comment ça va, Benjamin? Est-ce que tu es en forme?
Ça va très très bien, je suis ravi d'être dans ton podcast parce que je l'écoute presque religieusement toutes les semaines.
Je vois que déjà tu utilises tes astuces de psy pour me flatter et que je te pose des questions faciles.
Est-ce que ça marche, Patrick?
Évidemment que ça marche, évidemment.
Ça marche toujours.
Justement, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas?
Alors, je suis psychothérapeute, donc j'accompagne mes patients sur des thérapies brèves. C'est des thérapies qui durent en moyenne une dizaine de séances avec des exercices. J'utilise beaucoup l'hypnose aussi. C'est pour ça que je me suis fait un petit peu connaître sur YouTube. J'ai une chaîne qui a à peu près 1 million de vues par mois et qui traite de tous les problèmes de la psychologie, mais surtout propose des exercices concrets, des séances d'hypnose pour se relaxer, pour dormir. Puis je fais un podcast pour Le Figaro, autour de l'hypnose aussi, et ensuite je suis auteur, j'ai écrit un livre sur le sommeil, il y en a un sur le stress qui va arriver, donc je suis, bon, ça fait une carte de visite à rallonge, hein. je dis pas le contraire, mais le tout est à peu près cohérent, c'est autour du bien-être, du développement personnel et de la thérapie.
Mais c'est pas mal parce que, mine de rien, ça montre que le fait, tu sais, le simple fait que tu aies une chaîne YouTube qui est quand même, qui a ses suivis, ça montre que tu es familier avec les outils de la tech. Donc, même si ce n'est pas forcément obligatoire, j'imagine que ça donne une petite légitimité pour les auditeurs qui se disent « Bon, OK, au moins, il sait plus ou moins allumer un ordinateur. » Je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est un biais extrêmement critiquable, mais quand on pense à des psys, moi, je pense à des personnes relativement âgées qui sont dans des bureaux avec des tonnes de livres. Alors, je te vois, on est en vidéo hein, pour l'enregistrement. Tu as des tonnes de livres derrière toi dans ton, dans ton armoire, dans tes armoires. Donc, tu corresponds un petit peu à l'image. Mais je les imagine surtout pas très au fait de la technologie et puis même un petit peu réfractaires. Oh, bon, j'imagine que c'est un a priori qui est un petit peu faux. Tu me disais, en préparant l'émission, que même les psys, et psys recouvrent un certain nombre de métiers différents, on est un petit peu obligé de s'adapter aujourd'hui.
Alors, tu as tout à fait raison, et pour rassurer tu as tout à fait raison pour rassurer les auditeurs, je voudrais souligner que j'ai quand même une PlayStation 5. Je l'ai eu un mois après toi, donc ça me donne une certaine légitimité.
Non mais là, ça y est, c'est bon, c'est complètement réglé. Tu fais partie de notre tribu, c'est parfait.
et que d'ailleurs c'est marrant, quand j'en parle avec mes patients, ils me regardent et ils me disent mais vous jouez aux jeux électroniques, c'est pas possible. Effectivement, l'image des psys, c'est une image un peu vieillotte, ça sent la naphtaline, on imagine le cabinet avec le divan, le type à la barbe. Ça, j'ai de la chance, j'ai une barbe. J'ai aussi la chance de faire 10 ans plus vieux que je suis. J'ai toujours fait 10 ans de plus que mon âge, donc ça a été un gros avantage. Je trouvais pas, mais pour mon métier, au moins, ça l'était. Et effectivement, il faut imaginer qu'en France, on fait partie des deux seuls pays où la psychanalyse a un impact encore très important. Donc, il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que pour aider les patients, il faut qu'ils parlent de leur enfance, et ça sur des années et des années. Et cet amour pour la psychanalyse qu'on a en France a énormément retardé l'évolution et la modernité sur la pratique du métier. C'est un point que s'il n'y avait pas eu le confinement, 90% des psychologues, des psychothérapeutes ou des psychiatres n'exerceraient pas en ligne. Ils étaient complètement rétifs, hein, de la même manière qu'ils étaient rétifs au paiement par carte bleue, mais peut-être pour d'autres raisons. Oui. Il n'y avait absolument aucune modernité dans la vie d'un psy, à part à la limite un calepin et de quoi écrire. Hein. Je veux dire, les psys qui ont un iPad, c'est extrêmement rare.
Je veux juste te poser la question pour être sûr que je comprends bien. C'est un petit peu un pavé que tu lances dans une mare qui, moi, me paraissait relativement tranquille. Tu es en train de dire que la psychanalyse, je ne veux pas mettre des mots dans ta bouche, c'est pour ça que je te pose la question, la psychanalyse telle qu'on la conçoit en France est un petit peu vieillotte, justement, et que les choses ont évolué et que la France n'a pas... C'est pas le sujet dont on parle ici, mais ça m'intéresse. Donc, je suis très pro-psychanalyse.
C'est une très bonne question, parce que la plupart des gens, quand ils s'imaginent un psy, c'est Freud. Ils pensent qu'ils vont parler de leur enfance et comme dans une sorte de jeu de détective, une fois qu'ils auront trouvé le secret de leur névrose, tout va disparaître comme ça par une sorte d'intervention magique qui s'appelle la catharsis. Mais le problème, la psychanalyse est très intéressant, hein, c'est irrigué toute la culture du XXe siècle, on n'aurait pas eu Alfred Hitchcock sans ça, ni Stefan Zweig, ni plein de jeux vidéo avec des ressorts psychologiques incroyables. Donc merci Freud pour tout ça, mais en termes d'efficacité, une thérapie qui peut marcher, mais ça se compte en années, on ne peut pas dire que ce soit extrêmement moderne. Et c'est pour ça que maintenant, il y a des nouveaux courants de thérapie, enfin nouveaux, ils ont déjà 50 ans. Hein. Tu vois, quand je parle de modernité dans la thérapie, il faut garder les proportions. Les thérapies cognitives et comportementales, ce sont des thérapies, par exemple, qui sont tout à fait réceptives à la modernité, à la technologie. On utilise la réalité virtuelle dans les TCC. On utilise des techniques de neurofeedback, c'est-à-dire qu'on va analyser comment marche ton cerveau pour t'aider à aller mieux. Donc, on va dire que les nouveaux psys sont assez technophiles et que ça ouvre des moyens d'amélioration de la thérapie qui sont assez extraordinaires. En revanche, il faut être clair, on partait d'un niveau et de technologie et d'efficacité assez faible au départ. Donc, c'est un champ à conquérir et c'est passionnant.
Ben justement, parlons-en du coup. Je pense qu'on a bien compris le background que tu peins un petit peu. On a peut-être des habitudes, des traditions qui sont réfractaires au changement. Et la technologie, on l'a constaté ces 20, 30, 40 dernières années, ça accélère le changement, ça provoque et ça accélère le changement. Comment est-ce que ces métiers, peut-être, je ne sais pas si on peut... caricaturer un peu ou en tout cas grossir un petit peu le trait et tous les mettre dans le même sac, mais comment est-ce que ces métiers ont changé de manière concrète ? Parce qu'on sait que la tech affecte vraiment tous les métiers, mais moi je me dis, en psychologie, psychothérapie, psychanalyse, tous ces métiers ensemble, c'est quand même, de ce que j'ai comme image, une personne qui va parler à une autre et ça n'a pas l'air d'être un domaine qui est très propice à l'impact de la technologie. Donc comment est-ce que concrètement les métiers des psys en général, sont affectés par les changements de la technologie.
Je pense que la plus grande révolution pour nous, ça a été simplement le passage à la téléconsultation. Parce qu'il y a encore quelques années, on ne pouvait pas, c'était difficile de choisir un psy, on se fiait encore au bouche à oreille, mais la téléconsultation, ça a permis à des personnes qui n'avaient accès à aucun accompagnement médical ou psychologique, tout d'un coup, d'avoir des solutions. Les personnes qui ont un handicap, ou les personnes, par exemple, qui sont agoraphobes, qui ne peuvent pas sortir de chez elles, eh bien, pour eux, ça a été une première possibilité d'accès à des soins. Et pour les psys, ça a été une révolution parce que ça nous a obligés à nous mettre en concurrence. C'est-à-dire que maintenant, on choisit un psy véritablement parce qu'on pense qu'il a des solutions pour nous, qu'il a une bonne approche thérapeutique, alors qu'avant, on prenait un psy juste à côté de chez soi. Moi, ce que je prédis très facilement, et je pense que j'aurais raison, c'est que ça va justement booster les psys pour être plus efficaces, parce qu'ils vont pouvoir être comparés, parce qu'on va pouvoir choisir un psy tel qu'on le veut, parce qu'on va pouvoir consulter d'une manière beaucoup plus pratique. Et rien que cette évolution, ça enlève l'idée de transfert. C'est à une époque, on considérait que être en présentiel avec un patient, c'était excessivement important. Alors que finalement, on se rend compte qu'en thérapie en ligne, on fait exactement le même travail et que c'est plus facile pour le patient parce que bah, il peut consulter quand il veut. Donc, il y a moins d'arrêts de thérapie. Mmh. Et puis, ce qui est en train de changer
ça, pardon,
aussi...
Je te pose la question par rapport à ça. Ça s'est vraiment enclenché, encore une fois peut-être parce que les patients et les professionnels étaient un petit peu réticents, mais ça s'est vraiment enclenché avec la pandémie, j'imagine. Ou alors tu me dis non, ça avait commencé avant ça ?
C'est 100% la pandémie. Moi, comme je suis très geek, je fais des thérapies en ligne depuis 15 ans, même avec MSN Messenger à l'époque, donc ça date. Pour ceux qui s'en souviennent, bah, vous êtes plus vieux qu'on ne le croit. Ça nous a forcés à changer en une année. Tout le monde s'y est mis maintenant.
Avant,
tout le monde était rétif. Hein. C'était extrêmement rare. Mmh. Et puis, tous les intervenants du secteur, c'est une nouvelle économie qui s'est mise en place et c'était de vraies opportunités, c'est évident aussi.
D'accord. Mais concrètement, dans le métier au quotidien, bon, enfin, c'est vrai que ça, c'est un gros, gros changement. J'imagine qu'il y a des gens qui ont dû s'équiper et puis apprendre à utiliser différents types d'outils. Mais concrètement, il n'y a pas eu l'outil différent qui a fait que même quand quelqu'un est présent dans notre cabinet, on fait les choses différemment. C'est pas que l'iPhone a transformé le métier de psychothérapeute ou ce genre de choses. Ça n'a pas eu ce type d'impact.
Non, pour l'instant, ça a été une transposition.
D'accord.
Mais en revanche, on est à l'aube de changements qui sont plus profonds parce que la technologie apporte des solutions pour aider les patients qui sont extrêmement intéressantes. Il y a par exemple une technique qui s'appelle le biofeedback, qui existe depuis très longtemps, mais qui était très, très chère à mettre en place. C'est une technique vraiment simple. On utilise un appareil de mesure pour tester le niveau de stress du patient. Donc, on peut tester son niveau de transpiration, la tension musculaire, on peut voir son rythme respiratoire ou son rythme cardiaque. Et ça indique très clairement si le patient est stressé. Et s'il se relaxe, c'est-à-dire s'il apprend à se calmer en utilisant un retour, c'est-à-dire l'ordinateur lui dit, ou la tablette ou l'iPhone, s'il est stressé ou pas, eh bien, il apprend beaucoup plus vite à être calme et il arrive même à faire des choses qui semblaient assez incroyables, c'est-à-dire à maîtriser des comportements semi-réflexes, par exemple comme les battements cardiaques. Dans l'angoisse, souvent, on a de la tachycardie, c'est-à-dire le cœur qui bat à toute allure. Bah, avec le biofeedback, on apprend à faire ça. Au départ, ça coûte extrêmement cher. Ça se faisait plutôt dans les universités, dans des laboratoires. Et maintenant, simplement avec son téléphone, on peut, grâce à l'appareil photo, on arrive à capter le pouls et comme ça, on a déjà une manière de traiter l'anxiété. Quand on sait que le stress, c'est 90% des problèmes dans la psychologie courante, ça, c'est vraiment un game changer. Et plus loin...
Ouais, juste avant que tu ailles plus loin, il y a deux choses que je veux mentionner. Donc, quand on dit rien qu'avec l'appareil photo, il y a des moyens de capter le rythme cardiaque en mettant le doigt sur l'appareil photo avec la lumière du flash souvent qui va éclairer un petit peu. Et il y a certaines apps qui permettent de cette manière, donc même pas besoin d'Apple Watch, ce genre de choses. J'imagine qu'il y a aussi des outils dédiés, je sais pas, un petit truc qu'on va mettre sur le doigt ou qui va se connecter au téléphone.
Oui, exactement. Il y a par exemple la marque Urgo qui a développé une application et un pulsomètre qu'on met sur le doigt et c'est toujours le même principe. En fait, le but, c'est d'avoir un retour de l'ordinateur ou de l'appareil qui te dit si tu es stressé ou pas et d'apprendre grâce à ça à être de plus en plus calme. Mais la progression, les résultats sont vraiment très impressionnants. Il y a les applications dont on parlait et puis sinon, il y a des solutions qui sont plus chères. Moi, je me souviens par exemple d'un logiciel qui existe. Alors, il est plutôt ancien, on travaille déjà depuis pas mal de temps sur ce sujet, où par exemple on s'arnachait avec le nécessaire pour faire un ECG. C'était, on va dire, des électrodes mises simplement sur les bras. Et plus tu étais calme, plus tu voyais des animaux boire à une mare quelque part en Afrique. Et plus tu étais stressé, plus ils partaient. Ce qui était très stressant parce que quand tu les voyais partir, il fallait éviter de se stresser en voulant devenir calme. Il fallait vraiment se redétendre et les faire venir. Donc, là, on était sur un niveau qui était un peu supérieur parce qu'il y avait une vraie gamification et c'était très fun. Et c'est quelque chose que j'utilisais déjà dans mon cabinet il y a une dizaine d'années. Maintenant, on peut le trouver sur Android ou sur iOS très facilement.
C'est et marrant puis, parce que les deux choses, les deux premières choses dont on parle, en fait, c'est d'une part cet aspect de l'accessibilité aux données qui nous permettent, comme souvent dans la tech, de comprendre les choses et donc de mieux agir sur elles, avec cette question de rythme cardiaque qu'on peut lire, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Je suis sûr qu'il y a d'autres choses aussi dont on va parler. Et l'autre, c'est un autre domaine, enfin, un autre processus qui est constant dans tous les métiers et tous les domaines qu'on évoque quand on parle de tech, c'est cette numérisation, cette désintermédiation. Il y a d'une certaine manière une numérisation qui est faite de quelque chose et ça désintermédie absolument tout dans les liens qui connectent un fournisseur de services ou de quelque chose au client ou au ce que c'est. Et là, en l'occurrence, cette numérisation s'est faite par la vidéoconférence qui a eu ce catalyseur avec la pandémie. Mais du coup, ça veut dire que, comme tu le disais, tout le monde est en concurrence et on a accès à tous les spécialistes qu'on veut, simplement de chez soi, et ça fluidifie beaucoup les... Alors, pour le meilleur et pour le pire, j'en suis sûr, mais ça fluidifie beaucoup les relations. Mais c'est marrant de voir que la tech, en fait, impacte tous ces différents domaines, y compris celui-ci, un petit peu de la même manière.
Les gens qui ont le plus changé avec la révolution numérique, finalement, ce sont les patients. Quand tu parlais de désintermédiation, c'est exactement ça. Avant, quand on avait un problème psychologique, on ne savait pas ce que c'était, on était complètement isolé, on avait l'impression d'être seul au monde. Imaginons, d'un coup, j'ai des crises d'angoisse, je ne sais pas ce que c'est, j'ai l'impression que je vais mourir, j'ai l'impression que je suis en train de devenir fou, c'est un problème courant et normal. Mmh. Vous alliez aux urgences, on vous renvoyait, on disait que c'était que du stress, et puis finalement, au bout de 6 mois, vous alliez voir un psychiatre qui disait « Ah bah oui, c'est des crises d'angoisse, il faudrait que vous preniez des anxiolytiques, des antidépresseurs. » Mais ça prenait un temps fou et on était privé d'informations. Maintenant, les patients, ils vont chercher sur Doctissimo et consorts toutes les informations dont ils ont besoin, donc ils deviennent experts de leurs propres problèmes, et ça fait gagner un temps qui est dingue. Ou ils vont sur YouTube aussi, ça c'est l'un des vrais réflexes, et ce qui est formidable, c'est qu'ils arrivent souvent à être plus pointus que les spécialistes.
Mais c'est pas un double tranchant, justement, parce qu'on trouve, quand on se renseigne soi-même et qu'on n'est pas un spécialiste, on trouve toutes les réponses à toutes les questions, et donc le classique, c'est qu'on a l'impression que on va mourir demain si on a un bouton qui apparaît sur la main, et c'est pas à double tranchant du coup.
Ah ben bien sûr que si, t'as totalement raison. C'est-à-dire que sur les forums, il n'y a que les gens qui vont mal qui écrivent. Dès qu'on commence à aller bien, on n'écrit plus sur les forums. Donc ouais. Si quel que soit le problème qu'on a, il faut éviter les forums. Il vaut mieux évidemment aller sur des sites sérieux avec des informations sérieuses et puis comparer. Mais c'est vrai que mes patients, ils sont aussi parfaitement flippés parce que ils ont vu que s'ils prennent cet antidépresseur, ils vont être condamnés à le prendre à vie pendant 30 ans et qu'ils n'arriveront jamais à s'en sortir, ou que les crises d'angoisse, c'est un problème qu'on a à vie qu'il faut apprendre à vivre avec, que les phobies, c'est la chose la pire de la Terre. Enfin, évidemment, aller sur les forums, c'est un tulle moral assez incroyable.
Mais il y a quand même des ressources de qualité.
Ah oui, non, faut essayer de trier, mais c'est pas facile. De la même manière, t'as accès à tous les types de thérapies, tu vois ce qui peut marcher, tu peux comparer, mais t'as tellement de solutions qu'à la fin, tu sais pas quoi utiliser, donc tu picores à gauche et à droite et ça n'a pas forcément une grande cohérence. Malgré tout, je vais te prendre deux exemples très concrets. T'as deux problèmes qui sont très impressionnants et tout à fait normaux. Tu as ce qu'on appelle la dépersonnalisation des réalisations. Quand t'es hyper stressé, tu peux tout d'un coup avoir une sorte d'anesthésie des sens. C'est-à-dire que tu as l'impression que le monde devient vide et creux, comme si tu étais dans un rêve, et tu te sens creux à l'intérieur. C'est hyper, hyper angoissant. Quand on a ça, on se dit « mais je suis en train de devenir fou !» Ou bien « est-ce que quelque chose dans le monde a changé ?» On commence à se poser des questions existentielles à la Philippe Kadic. « Est-ce que le monde existe ? Est-ce que j'existe réellement ?» Enfin, c'est vraiment hyper angoissant. Et paradoxalement, il y a très peu de psys qui sont sensibles au problème de la déréalisation et de la dépersonnalisation. Donc, quand on va les voir, on peut aller voir 10 psys sans avoir même le nom de sa maladie, qui, en plus, peut se traiter très facilement parce qu'il suffit de baisser le stress. De la même manière, tu as une autre pathologie qui est extrêmement impressionnante qui s'appelle la phobie d'impulsion. C'est la peur de faire quelque chose de mal. Donc, ça peut être la peur de se tuer, la peur de blesser les autres, ça peut être aussi des peurs comme de changer d'orientation sexuelle, ou voilà, toutes ces peurs, c'est la peur, l'idée, et si je faisais quelque chose que je ne ferais pas ou que je voudrais pas faire. Et ça, ce sont des personnes qui vivent avec des obsessions toute la journée, alors que ce sont les personnes les plus douces et les plus gentilles au monde. Et ben, heureusement, avec Internet, elles tapent peur de faire du mal à mes proches, et elles tombent sur phobie d'impulsion. Une fois qu'elles ont phobie d'impulsion, eh ben, elles peuvent trouver un spécialiste, et à partir de là, on peut espérer avoir une thérapie efficace. Alors qu'avant, quand il y avait des intermédiaires, on pouvait passer 20 ans à aller de psy en psy sans avoir de réponse et sans avoir de solution. Et de la même manière, bon, bah, je te disais, je critiquais les forums, mais si dans un forum on voit quelqu'un qui dit « ouais, j'ai commencé tel médicament, j'y croyais pas, mais ça fait du bien », bah, que la personne prenne des médicaments après ou suive une thérapie, de toute façon, ça ouvre une porte, elle se sent pas seule, elle se sent normale et elle peut se diriger vers les solutions. Mais c'est très marrant parce que ce mouvement-là, tu vois, maintenant... Je reçois tous les jours, pour moi, mais tu dois être la même chose pour toi, 30, 40 commentaires sur ma chaîne YouTube. Et ce que j'observe de plus en plus, c'est des gens qui trouvent l'origine de leurs problèmes sur YouTube, se soignent avec les vidéos, ce que je trouve, enfin, je veux dire, c'est sidérant, quoi. Ça chinte complètement leur psy. Moi, j'ai des messages, des gens qui me disent, bon, bah, ça faisait 10 ans que je faisais une psychanalyse, ou ça fait 5 ans que je prends des médicaments. Depuis que je fais des hypnoses pour m'endormir, bah, j'utilise plus de somnifères. Bah, moi, je trouve ça à la fois très dérangeant et en même temps assez merveilleux. Très dérangeant, ça veut dire que dans la vie réelle, ils n'ont pas forcément trouvé de solution. Merveilleux, c'est qu'au moins, ils ont accès à des ressources et grâce à ça, ils arrivent à se soigner soi-même. Tu vois, c'est toujours l'ambiguïté avec l'automédication, en quelque sorte.
Oui, 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 bien sûr. Et qui peut être effectivement problématique par d'autres aspects aussi, si c'est pas maîtrisé. Mais du coup, ça m'amène à parler d'un autre sujet qu'on voulait évoquer. Ça donne, là encore, avec des mécanismes des intermédiations qu'on a connus avec des choses comme Uber ou Airbnb, on a des applications de méditation, des applications... moi, j'ai utilisé des applications de méditation, j'utilise des applications de yoga qui sont également formidables.
Tu peux te poser une question, Patrick ?
Bien sûr.
Excuse-moi. Alors, et les applications de méditation, tu as trouvé ça formidable aussi ou tu t'en es lassé assez rapidement ?
Je t'avoue que je m'en suis lassé. Au bout d'un moment, j'ai fini par ne plus le faire parce que je n'avais pas le temps. Ce dont je me rends compte que c'est ridicule parce que c'est 10 minutes, tu vois. Et j'avais l'impression de ne pas avoir le temps. Mais ça, j'imagine que c'est un problème plus... personnel.
Tu te trompes.
Oui,
hyper, hyper répandu. C'est-à-dire que c'est vraiment un mal contemporain de se sentir pressé par le temps. Et on a beaucoup de mal à se dire que si on prend une pause, quelle qu'elle soit, une pause de méditation, une pause de relaxation, finalement, après, on va mieux travailler. On va être plus efficace. Donc, ça pousse ça force à réfléchir à ce qu'est la productivité. C'est-à-dire, quand on veut en faire toujours plus, on va aller toujours plus vite, on s'essouffle et on n'y arrive pas. Alors que si on a des routines...
Je ne vois pas du tout de quoi tu parles, Benjamin. Vraiment, ça ne me concerne pas du tout, ça.
Ah non, je te jette pas la pierre.
Non, non, mais je sais que ça décrit beaucoup de gens, j'en suis sûr, mais c'est toujours amusant de s'entendre décrit dans ces problèmes. Mais du coup, avec tous ces outils, alors je parle des apps, mais il y a aussi, comme tu le décris très bien, YouTube, il y a Doctissimo qu'on évoquait, il y en a plein d'autres. Et donc, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a encore besoin des spécialistes, finalement ? Je sais que la réponse est oui, mais je te pose la question de manière un petit peu provoque.
Je, Non, c'est pas une, pour moi, ce n'est pas une provocation. Je trouve que les spécialistes sont challengés par la technologie et que ça fait énormément de bien parce que je vois que depuis que ces ressources sont disponibles, les psys de tout poil se forment à la méditation, se forment à l'hypnose, se forment à la relaxation, ce qu'ils n'auraient pas forcément fait s'il n'y avait pas cette concurrence. Donc, je
Est-ce
pense
que c'est
que ça a un impact.
un vecteur de modernisation des je ne sais pas si on peut dire des techniques, mais même des compétences
Ah
de
oui.
ces métiers, en fait. Ce que tu veux dire, c'est que ça pousse les gens à aller chercher à être plus efficaces ou à mieux connaître des domaines un petit peu connexes qu'ils n'auraient pas explorés, c'est ce que tu veux dire.
C'est-à-dire que c'est une concurrence qui ne fait pas baisser les prix, mais qui fait augmenter la qualité des prestations. Ça, je le vois d'une manière très, très concrète, et ça passe par l'acquisition, par les psys, de nouvelles compétences. Mais il faut être aussi très clair, hein. Les psys, ils vont pareil sur YouTube, sur Internet, pour essayer de trouver de nouvelles techniques, pour apprendre des solutions. Et y a beaucoup d'autodidactes qui font la méditation parce qu'ils ont écouté Petit Bambou, parce qu'ils ont été sur YouTube et qu'ils ont vu des vidéos de méditation. Puis, ils le font pas forcément mal, hein.
Ouais.
Et ça peut être un plus à la thérapie. Donc oui, je pense que Internet force à être meilleur et que ça se fait très rapidement. Est-ce qu'on a moi je suis persuadé qu'on peut se passer des psys. Tu vois, je suis pas en train de faire la promotion hein, quand je dis ça parce que je suis en train de dire ouais mon métier il faudrait pouvoir s'en passer. Mais
Oui,
réfléchissons à un truc.
en même temps, tu as une chaîne YouTube qui est toute trouvée pour que les gens puissent aller se renseigner sur ces sujets aussi. Donc,
Ouais, mais mon vrai métier, c'est psy, hein.
Ouais, d'accord, ok, je comprends.
Voilà, c'est pas, j'y accorde beaucoup d'importance à ma chaîne, je m'y implique, mais très clairement, c'est pas ce qui me fait vivre. Donc non, je t'assure, je saborde un peu le navire en te disant ça.
Je comprends.
Pourquoi on peut être remplacé? On pourrait être remplacé depuis longtemps. C'est-à-dire que pour plein de problèmes de la vie, le stress, les phobies, les TOC, les crises d'angoisse, il existe des protocoles, c'est-à-dire des exercices à faire semaine après semaine qui sont très précis. Ça existe presque depuis les années 30. Ça s'est développé dans les années 70 avec ce qu'on appelle les thérapies brèves. Et si on suit une autothérapie et qu'on est sérieux, c'est-à-dire qu'on fait exactement ce que le psy nous dirait, mais cette fois-ci guidé par une application ou simplement par un bouquin, eh bien, on peut tout à fait s'en sortir. Et parfois, on s'en sortira mieux si on applique le bon protocole. Donc, nous, on n'est pas toujours utile. Et puis, on a intérêt à être très bon pour rester utile. Et puis, aussi, il y a une deuxième chose, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, 90% des problèmes qu'on traverse en psychologie sont liés au stress, à l'anxiété. Donc, tu résous le problème de l'anxiété, tu résous 90% des problèmes. Et pour moi, c'est le grand plus de la méditation. C'est en apparition, donc c'est un type, un Américain qui s'appelle Jon Kabat-Zinn, qui a pris des techniques de méditation, on va dire d'origine bouddhiste, qui a enlevé un petit peu le côté bouddhiste, qu'il a intégré dans des thérapies plus sérieuses, on va dire comme la thérapie cognitive et comportementale, qui a fait des études cliniques pour vérifier que ça marchait. Mais ensuite, en France, c'est Christophe André et d'autres qui ont apporté la technique. Mais ce qui est génial, c'est que ça permet de développer une idée. C'est si je fais ces exercices de méditation, je vais apprendre à être bien, je vais apprendre à être calme. Grâce à ça, je n'aurai plus de rumination. Grâce à ça, je vais être plus épanoui. Je vais avoir l'impression de vivre davantage parce que on peut être plus ou moins vivant. C'est-à-dire que quand on est centré sur ce qu'on fait, là, je suis avec toi, ça me fait plaisir d'avoir cet échange. Je suis un peu fan, hein, je te l'ai dit en off et je le dis en vrai ici. Je le dis très très rarement. Hein. Je suis pas du genre à être fan, mais je trouve qu'il y a des voix comme ça qui te marquent et qui t'accompagnent, qui deviennent des présences. Je trouve ça toujours étonnant quand sur YouTube quelqu'un me parle comme s'il me connaissait, mais moi, c'est vrai qu'on a ça aussi pour les podcasts, par exemple.
C'est énorme, c'est bien. Je vais pas t'interrompre, continue, c'est très bien.
Non, je te flattais tellement que j'ai perdu mon fil.
Non, on parlait de
Aide-moi,
méditation et
aide-moi à me.
d'être centré sur soi, ce qui est un petit peu
Oui.
le mindfulness. Je ne sais pas quelle est la traduction
Non,
en
c'est
français,
ça,
mais c'est vraiment
la
ça, le
pleine
fait d'être
conscience.
présent Voilà.
Plus tu es centré sur ce que tu fais, donc par exemple, moi, pour notre échange, le fait de t'écouter, le fait d'être vraiment centré sur ce que je dis, eh bien, je vais avoir l'impression d'un temps plus dense, j'ai l'impression de vivre davantage, je vais avoir une satisfaction, je vais être plus heureux, en fait, pendant le temps où je serai vraiment présent au monde. Donc, l'idée qu'il y a derrière la méditation, c'est qu'on peut travailler sur soi pour apprendre à être bien. Et ça, c'est révolutionnaire. Pourquoi ? Parce qu'avant, on croyait qu'il fallait résoudre les problèmes pour être bien. Et résoudre les problèmes, c'est beaucoup plus compliqué. Et on n'est pas toujours sûr des résultats. Et avant, psychanalyse oblige, on croyait qu'il fallait connaître la cause des problèmes pour les résoudre. Maintenant, grâce à la méditation et à d'autres approches, on se dit, je peux travailler sur moi et grâce à ça, apprendre à être de plus en plus zen et de plus en plus épanoui dans ma vie. Il y a une méthode. Et ça, vraiment, ça change la donne. Et ce n'est pas étonnant que ça devienne aussi populaire parce que c'est ce qui manquait au discours des psys. Moi, je crois que la meilleure des thérapies, c'est la thérapie des apprentissages. C'est-à-dire apprendre à être calme dans son corps, apprendre à être calme dans sa tête, apprendre à bien dormir. Et dès qu'on parle d'apprentissage, on a quelque chose de beaucoup plus simple et qui va pouvoir avoir des résultats pérennes. Et ça, on le doit très clairement à la méditation. Il y avait des techniques qui existaient avant et qui avaient ce genre de philosophie, mais malheureusement, elles n'étaient pas aussi populaires que la méditation. Donc la méditation a ouvert une porte pour tout le monde et ça a permis de changer l'approche de la thérapie. Et encore une fois, les applications ont eu un impact très positif parce que ça a popularisé ça, parce que bah, plutôt que d'aller voir un type un peu bizarre avec de l'encens dans un environnement New Age, avec une odeur de patchouli, tu vois, tu prends ta petite application, petit bambou ou autre, et grâce à ça, bah, tu te sens mieux de jour en jour. Mais bah, y a des défauts. La méditation, pardon pour ce que je vais dire, mais c'est chiant comme la pluie, c'est toujours la même chose. Donc, concentre-toi sur le souffle, accepte tes pensées, t'en as vite fait le tour et le contenu est très limité. C'est pour ça que moi, par exemple, je préfère largement l'hypnose qui permet d'avoir une approche très proche de la méditation, mais ça permet de se détendre sans aucun effort et d'entrer dans un état de transe, un état modifié de conscience. Et puis après, tu peux t'éclater, tu peux en hypnose, tu peux imaginer que tu es un super-héros, que tu voles, tu peux imaginer que tu as des pouvoirs magiques, que tu peux... Enfin, ça apporte, à la forme, une capacité à compter des choses. Ça devient vraiment un plaisir et un loisir. C'est pour ça que j'ai une petite préférence pour ça, mais les gens qui font de la méditation, c'est très bien. Et merci Petit Bambou et merci les autres.
Tu le vends bien. J'attendrai ton app concurrente de Petit Bambou, mais en version hypnose. Il faut que tu amènes l'hypnose, la facilité de l'hypnose dans les smartphones. Mais c'est...
J'y ai pensé.
J'imagine peut-être un jour, mais c'est effectivement intéressant parce que tu décris en fait toute une partie du métier de psychothérapeute qui a à voir avec des processus et des méthodes très simples, un petit peu mécaniques, qui sont émulables, simulables par les applications de manière assez efficace. Et il y a des applications qui ont qui proposent une variété de sessions. De séances vraiment bien foutues. Moi, je parlais d'une application de yoga qui est un petit peu différente, bien sûr, mais qui va enchaîner ensemble différents exercices de manière assez fluide et qui va faire que, justement, chaque séance est différente. Je vais la mentionner parce que je suis sûr que sinon, les gens vont me demander. C'est Down Dog, qui est l'une des positions de yoga bien connues. Et il y a une innovation dans la présentation des exercices qui est vraiment intéressante et qui est possible, qui s'approche un petit peu du cours. J'imagine que les applications de méditation pourraient suivre ou sont en train de suivre le même type d'évolution. Mais en tout cas, ce qui est intéressant là-dedans par rapport au métier de psy, qui est quand même ce dont on parle ici, c'est qu'une grosse partie de ce que permettaient les psys est possible avec ces autres méthodes, que ce soit les applications ou peut-être YouTube ou d'autres choses. Et donc, il y a effectivement, je suis sûr que si on invitait quelqu'un d'autre, on aurait un son de cloche un peu différent, mais c'est le jeu. Il y a une partie du métier qui est rendue moins nécessaire, comme on l'a connu dans des différents domaines de la société. C'est intéressant de voir que ça s'applique également à ton métier. Je voudrais revenir quand même sur... Il y a un petit peu d'automédication là-dedans quand même. Et même si, évidemment, les psychiatres sont des docteurs, les autres psys ne le sont pas forcément. Est-ce que moi, quand on parle de ce genre de choses, j'ai tendance à faire, tu sais, un petit pas en arrière et à me dire, oula, attention, il faut quand même faire gaffe avec ce genre de choses et l'automédication peut être dangereuse. Est-ce que c'est un réflexe qui est plus lié aux questions médicales et qui ne s'appliquent pas forcément ici, ou est-ce qu'il y a quand même des petits astérisques à mettre dans ce qu'on dit là, et que oui, il y a des dangers auxquels il faut faire attention. Tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, mais je voudrais qu'on reprécise la chose.
Il y a la plupart des approches dont on a parlé sont d'une parfaite innocuité. Faire de la méditation, quelles que soient les pathologies que tu as, il n'y aura pas de problème. L'hypnose, on dit que si on est schizophrène ou psychotique, il vaut mieux éviter, mais même ça, ce n'est pas encore vraiment prouvé. Donc, on est sur des solutions, tu vois, qui n'ont pas vraiment d'effets secondaires négatifs. Quand on est sur l'automédication, par exemple, le paracétamol, si tu en prends plus que 6 par jour, ton foie va avoir un risque très, 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 très fort. C'est très toxique, le paracétamol. Donc, on peut, même avec des petites choses comme ça que tout le monde croque de temps en temps, on peut se faire du mal. Avec la méditation ou l'hypnose ou la relaxation, il n'y a pas vraiment ce risque. Un des risques qui existe, mais qui de toute façon existe toujours, c'est des personnes qui choisiraient cette sorte d'automédication sur le net plutôt que de faire une thérapie. Et là, on pense surtout à des personnes qui auraient des pathologies lourdes, des personnes qui seraient soit suicidaires, soit schizophrènes, soit bipolaires. Et là, il faut faire extrêmement attention. C'est-à-dire que un psy doit connaître ses limites. Moi, dès que j'ai un patient qui relève de la psychiatrie ou de la médecine, je le redirige et je fais, j'ai une attention dans toutes mes vidéos très forte en disant bon, bah voilà, on va travailler sur une séance d'hypnose qui va vous aider à vous détendre musculairement, mais si vous voyez que vous avez des douleurs qui restent, parlez-en à votre médecin généraliste, allez voir un rhumatologue. Je fais très très attention, surtout que quand t'es sur YouTube, bah, ta voix, elle est démultipliée. Donc, si tu fais croire de mauvaises choses, si tu ne diriges pas vers les bonnes personnes, là, oui, il peut y avoir un risque. Mais les méthodes en tant que telles, elles ne sont pas vraiment dangereuses. Et puis, les personnes qui vont vraiment mal, en général, de toute façon, elles finissent par aller voir un psychiatre et rentrer dans le système de santé. Et puis, tu en as d'autres qui ne rentreront jamais dans le système de santé. Je te donne un exemple. En France, il y a 600 000 schizophrènes, mais il y en a 400 000 qui sont traités. Donc, tu as 200 000 personnes qui ont une pathologie extrêmement grave, qui peuvent être dangereux pour eux-mêmes, dangereux pour les autres, qui souffrent aussi énormément et qui ne sont pas traités. Au moins sur Internet, ils entendent parler des problèmes, ils voient qu'il y a des solutions, ça peut être un déclencheur. Mais ça ne résout pas ce problème, ça ne résout pas totalement le problème de l'accès aux soins. Mais moi, tout ce dont je te parle, ce sont des problèmes normaux, classiques qu'on peut avoir dans sa vie, des problèmes d'insomnie, des problèmes de phobie, des problèmes de crise d'angoisse. Avec toutes ces solutions, tu ne vas pas les empirer, au contraire. Et encore une fois, comme ils sont liés au stress, dès qu'on baisse le stress, on a un impact qui est très, très positif. Donc, je ne crois pas qu'il y ait ce problème particulier, mais il faut faire attention et connaître ses limites. Évidemment, si tu as un gourou qui sur l'hypnose qui te dit grâce à l'hypnose, tu vas pouvoir régresser dans tes vies antérieures et découvrir les secrets de tes malheurs, ouais, non, on va éviter.
Ou si tu as quelqu'un qui dit là. Ça veut dire quand même qu'il y a une importance qui est peut-être, je ne sais pas si on peut dire qu'elle est démultipliée, mais. Une importance des gens qui sont de vrais spécialistes et de vrais experts, et que tout seul, on ne peut pas tout faire simplement parce qu'on a des apps et YouTube, tu vois. Il y a quand même cet aspect qui est important.
Non, ta remarque est extrêmement juste. Moi, par exemple, les gens qui sont angoissés, les gens donc, qui ont un stress qui est élevé, très souvent ont des somatisations bizarres, elles ont du mal à les analyser. Ça peut être une sorte de brûlure, une oppression, ça peut être des vertiges, ça peut être l'impression de tomber dans les pommes. Et ça, ça peut être aussi finalement ces symptômes, des symptômes d'autres maladies et d'autres problèmes, ou ça peut être des problèmes qui sont à la jonction entre la médecine et la psychologie. Imaginons par exemple quelqu'un qui a des reflux gastro-œsophagiens, des acidités d'estomac, quoi, pour faire simple. Eh bien, le stress augmente l'acidité de l'estomac, donc d'une certaine manière, c'est la psychologie. Mais s'il y a une inflammation, si le petit clapet qui empêche que ça remonte ne marche pas, là, c'est de la gastro-entérologie, il faut aller voir un médecin. Et bien souvent, les gens qui ont des angoisses sont persuadés que tout tourne autour des angoisses et qu'il n'y a pas de solution en dehors de la psychologie. Et le problème, c'est que bien souvent, leurs médecins ont un petit peu ce travers aussi. C'est quand ils se disent « Bon, moi, je connais ce patient, il est hyper anxieux. » Donc, à chaque fois qu'il arrive avec un nouveau symptôme, ils disent « Ouais, bon, il est un peu hypochondriaque, on va lui dire que c'est le stress, ça va le calmer, je le reverrai dans 2 semaines. » Et il n'y a pas suffisamment de détection. Je te racontais un exemple un peu plus impressionnant. J'ai eu comme patient un chef d'entreprise, il arrive parce qu'il a des crises d'angoisse. Ça, il sent comme une sorte de brûlure au niveau du plexus et il se sent mal pendant facilement une demi-heure. Moi, ça me semble bizarre. Ça ne correspond pas vraiment aux symptômes des crises d'angoisse, cette brûlure. Je lui dis, vous êtes sûr, vous avez vu un médecin? Oui, oui, j'ai vu l'équivalent du Dr. House dans ce qu'on appelle la médecine générale. On a fait tous les examens. Bon, écoute, très bien, on va baisser votre stress. Si c'est ça, tous vos symptômes vont baisser. Si ce n'est pas ça, il faudra aller à nouveau à l'hôpital et refaire des diagnostics, refaire des examens. Ses symptômes ont baissé, il n'a plus de crise d'angoisse, mais il avait toujours ses brûlures excessivement fortes. Finalement, il allait à l'hôpital, il a fait une angiographie, c'était un examen, une radiographie de tout ce qui est veine, artère, etc. Et on a vu qu'il avait un problème cardiaque. Et comme ça, il a pu être soigné, opéré, et vraisemblablement, d'ici 4 ou 5 ans, il en serait mort. Donc tu vois à quel point il est important de connaître ses limites et de ne pas voir uniquement midi à sa porte. Bon, maintenant, quand tu communiques sur la psychologie courante, tu ne peux pas dire pour chacune de tes phrases, mais attention, il faut aussi aller voir le médecin. Et moi, je le dis fréquemment et je fais très attention à ne pas déborder mon secteur et à rediriger vers les bonnes personnes. Mais c'est un réflexe qui devrait être pris dans tous les articles sur la santé mentale, par les journalistes, par tous les youtubeurs, par tous les psys. Donc, c'est un travers qui est beaucoup plus grand que simplement Internet, mais auquel il faut faire très attention. Je suis parfaitement d'accord. Oui.
C'est intéressant parce que je crois qu'au final, ça, c'est un aspect qui était déjà présent avant l'avènement du net et toutes les possibilités que ça offre et qui aujourd'hui est toujours présent. Ça, c'est peut-être une chose qui n'a pas forcément changé tant que ça. Parlons un petit peu justement. Oui.
Je vais donner l'exemple des. Désolé.
J'allais dire, on va avancer, mais si tu as un autre exemple à nous donner, on peut y aller.
Il y a par exemple beaucoup de personnes sur le net qui croient aux fleurs de Bach. Les fleurs de Bach, c'est inventé par un bon docteur. C'est des fleurs qui sont cueillies à certains moments de la journée et qui sont mises une sorte de décoction dans l'eau. Et puis c'est vendu un peu partout. Maintenant, c'est aussi vendu en pharmacie. Rien ne prouve que ce soit efficace. Mais avec Internet, ça a connu un succès qui est monstrueux, ce qui fait que maintenant, tu as dans les pharmacies, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est quoi, ça s'appelle urgence stress ou quelque chose comme ça, des fleurs de Bach. Bon, franchement, ça ne fera pas de mal, il n'y a pas de danger, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment efficace. Internet démultiplie les possibilités de communication et les possibilités de fake news, de hoax ou de direction vers de mauvaises solutions. Il faut en avoir conscience. Le problème existait avant. Simplement, il gagne en puissance, en viralité avec le net. Mais ça, c'est toute l'histoire des fake news, mais ça concerne aussi mon métier.
J'imagine qu'il y a des gens qui viennent vous voir justement avec des idées un petit peu, j'ai pas envie de dire farfelues parce que c'est stigmatisant, mais des choses dont ils ont entendu parler. Et puis il faut aussi démêler plus de choses peut-être que ça n'était le cas avant. C'est justement qu'on disait, les gens deviennent experts, ils deviennent peut-être experts sur des sujets qui sont pas forcément les plus, sur des sujets qui ne sont pas efficaces, on va dire ça comme ça, et que ça vous donne du fil à retordre aussi. Mais puisqu'on parle de fake news, qui est un danger réel aujourd'hui, l'une des questions que tu me posais ou que tu proposais en préparant l'émission, et il y en a un certain nombre, on va peut-être en évoquer certaines. Et la deuxième va vous surprendre. Non, la deuxième est une question qui me parle particulièrement à moi. Mais tu me disais, est-ce que le numérique transforme tout le monde en idiot ? Est-ce que tu parles justement de ces questions de fake news ? Est-ce que, ou simplement le fait que les gens ont les yeux rivés sur leur téléphone et ne parlent plus aux autres, comme on le dit parfois ? Moi, sur ces sujets, j'ai souvent tendance à penser que les gens oublient comment étaient les choses avant. Mais quelle est cette question exactement qu'on se pose quand tu me la poses ?
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Oui, alors c'est vraiment le genre de question à laquelle il est difficile de répondre et qui est extrêmement complexe. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une évolution sidérante de nos comportements et de nos façons de penser en lien avec la technologie. Quand les enfants entre 2 et 12 ans passent 3 heures en moyenne devant l'écran, quel que soit l'écran, que ce soit les smartphones, les tablettes, la télévision, etc. Entre 8 et 12 ans, c'est 4h45. Entre 13 et 18, on passe à 6h45. Et ça fait à peu près 1000 heures d'écran pour un élève en maternelle, par exemple. Donc, on est sur quelque chose de sidérant. Ça ne veut pas dire que c'est forcément mauvais, loin de là. On n'a pas de recul, en fait, c'est ça le problème. On peut pas être, Auguste Comte disait, on ne peut pas être observateur, observé, c'est une vraie chose. Mais simplement, on est en train d'être changé par la technologie d'une manière incroyable. Tu dis souvent dans tes émissions que pour comprendre l'économie et la société, il faut comprendre la technologie. Je pense que pour comprendre ce vers quoi psychologiquement on se dirige, il faut aussi comprendre la technologie. La technologie, elle a, on le sait, à la fois des impacts positifs et à la fois des impacts négatifs. Elle pousse à être beaucoup plus sédentaire, à bouger moins. Donc, on fait moins de sport. Par exemple, les Américains font 2 fois moins de sport qu'avant. Déjà qu'il y a des problèmes d'obésité, ça les augmente, des problèmes cardiovasculaires, ça peut même réduire l'espérance de vie.
Alors, c'est vrai, l'une des choses dont tu parles, tu dis que peut-être que le vrai problème de la tech, plus que les autres dont on va peut-être parler, c'est la sédentarité qui est augmentée par le numérique omniprésent, quoi.
On l'a vu par exemple avec le confinement. Les niveaux de stress ont crevé les plafonds. Il y a eu 2 fois plus de dépression depuis le début de la pandémie. Et ça, c'est lié à la sédentarité. C'est-à-dire que s'exposer
c'est pas
à
dû
lumière,
à la pandémie quand même aussi. C'est pas que parce qu'on était coincé chez nous, même si ça se joue, j'imagine. Mais
honnêtement, je pense que c'est difficile à estimer évidemment. Mais quand tu vois avec depuis hier, date de l'enregistrement, on n'est plus obligé de porter des masques. Les gens les ont jetés très très facilement. Ils ont oublié leur angoisse. Je faisais partie des seuls idiots qu'il avait encore sur le visage en me disant si je rentre dans une boutique, je vais devoir faire. Ouais. Je pense que, évidemment, ça a créé certaines peurs, mais ça semble assez incroyable. On nous annonce qu'il y a la peste à un niveau mondial, et il y a toute une partie de la population qui n'y croit pas, qui croit que ce n'est pas si dangereux que ça, et puis finalement, on s'y habitue. Donc, je ne pense pas que le premier facteur de stress ait été la peur de la maladie. Le premier facteur, ça a été la sédentarité. On sait que dès que quelqu'un est inactif parce qu'il est au chômage, parce qu'il a la retraite, parce qu'il a une maladie, son stress augmente énormément.
Tu as oublié parce qu'il vit à la campagne et qu'il travaille sur Internet et qu'il vit en Finlande à la campagne. Effectivement, je rentre dans cette catégorie aussi.
Quand il a une charmante femme, prenons un patient type, s'il a une charmante femme, s'il a une petite fille toute mignonne et un garçon tout mignon
ça
également, qu'il a accès quand même à Internet en haut débit et qu'il a la beauté de la Finlande et qu'il voit passer le rythme des saisons. Donc, je pense qu'il peut être très heureux, ça ne pose pas de problème. On est d'accord, Patrick, c'est totalement fictif. Ce que je t'écris là. Mais c'est vrai que ça nous change à un rythme qui est incroyable. Par exemple, c'est vrai qu'on n'a plus à faire d'efforts. Si on n'a plus à apprendre quelque chose ou à faire des opérations mathématiques, on va tout de suite aller sur son téléphone. Il y a une sorte de paresse qui est très importante. Il y a aussi un truc qui est en train de disparaître dans nos comportements, c'est la rêverie. C'est-à-dire que quand on n'a pas de téléphone, à certains moments, on pense à rien et puis on se met à rêvasser, on trouve de nouvelles solutions, on se repose l'esprit. Quand on est non-stop sur son téléphone, on n'a plus ces moments et qui sont des moments très importants. Ça s'appelle notamment les cycles ultradiens. Que va-t-il devenir si on enlève la rêverie, l'ennui ou l'effort ? Comment vont évoluer nos comportements ? Et puis, le fait que l'ordinateur, la tablette ou autre soit aussi séduisant, c'est vrai qu'on reste, pardon pour le terme que j'ai utilisé, mais le cul vissé sur une chaise, et ça crée des maux de dos, et ça augmente le stress, et on fait moins de sport, on est moins exposé à la lumière, et c'est un impact psychologique qui est énorme. Moi, je te dis que je suis persuadé que c'est un impact hyper important, parce que le confinement a eu le même type d'effet, et qu'on a vu que l'anxiété et la dépression augmentaient en flèche. Donc je suis persuadé, en tout cas c'est mon sentiment, que c'est surtout la sédentarité liée au mode de vie numérique qui est vrai. Je veux dire, le jour où en France on pourra commander toutes ses courses chez Amazon, ou bien ça se fera directement comme il voulait que ça se fasse à une époque, où tous les services, on se fera livrer la nourriture, on n'aura plus rien à faire, ça va nous changer psychologiquement. Oui. J'ai pas de doute, on va parler de... On va devenir des assistés. On parle d'assistants vocaux, mais il y a un côté où on devient assisté.
les assistés vocaux.
Oui, c'est ça.
Ouais, c'est sûr que ça a un impact, c'est certain. Moi, je me sens quand même vraiment concerné par ce que tu dis, parce que la sédentarité, elle est indéniable chez moi aussi, et je suis sûr chez beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent. Ça, c'est augmenté par le numérique, mais la chose qui me paraît la plus... Peut-être que c'est parce que ça me concerne encore plus, mais cette idée qu'on n'a pas de temps de pause, de rêverie, je le ressens vraiment énormément. Je suis tout le temps sur Twitter, tout le temps en train de checker mes flux RSS, je suis tout le temps engagé dans une activité, et j'ai peu de temps de downtime, comme on dit en anglais. Encore que, le truc, alors c'est quand même le cul vissé sur ma chaise, mais je peux prendre le temps de temps en temps de jouer à un jeu vidéo qui ne va pas me demander trop d'efforts. Les auditeurs du rendez-vous jeu savent que je joue beaucoup à Destiny de temps en temps, j'ai des périodes comme ça. Et c'est parce que le jeu est sympa, mais c'est aussi parce que ça ne me demande pas trop d'efforts et que mon esprit se repose un petit peu. Ça me permet de te poser la question sur les jeux vidéo.
Non, mais tu restes face à un ordinateur.
Bien sûr, oui,
tout à fait.
Tu
restes face à un écran qui crée de la fatigue physique et tu restes dans une attitude parfaitement sédentaire. Non, si les pauses, c'est extrêmement important. On doit en faire toutes les heures et demie à cause des cycles ultradiens. C'est des moments où on rêvasse. Donc, si on ne fait pas des pauses toutes les heures et demie, on est plus davantage stressé et on est moins efficace. On doit prendre une grande pause au niveau du creux méridien, c'était entre midi et 13 heures. Et si tu ne fais pas ça, t'es davantage stressé, t'es davantage fatigué et tu es finalement moins productif. Donc investir sur des pauses, mais des vraies pauses, c'est important. Moi, ce que je trouve à la fois génial et un peu déprimant, c'est ce que fait l'Apple Watch. L'Apple Watch, elle te rappelle... dès que tu commences à être stressé, qu'il faudrait respirer. Bon, c'est très bien, la relaxation, ça nous ferait du bien à tous. Si on fait ça à chaque fois, ça nous fera du bien. Mais elle nous rappelle que si on est le cul sur la chaise depuis une heure, il faudrait peut-être se lever. T'imagines dans quelle société on est si au bout d'une heure à rester devant l'ordinateur, on n'a même pas l'idée de se lever, d'étirer les bras, de s'étendre.
Moi, je suis... Pire, quand la watch me dit de respirer ou de me lever, je lui dis, mais ta gueule, je suis occupé là, j'ai pas que ça à faire, franchement, il faut que je regarde ce que quelqu'un a dit sur Twitter. Donc, c'est pire, moi, je suis un niveau au-dessus. Hein. Et beaucoup...
Alors, et là, on passe à deux types d'addictions l'addiction aux jeux vidéo, ça touche 1,5% de la population, et on parle d'un autre type de pathologie qui est FOMO, Fear of Missing Out. C'est la peur de rater quelque chose. Mais tu vois que tu es dans une sorte d'hyper-connexion, d'hyper-sollicitation qui est un facteur de stress parce que tu n'as plus de temps pour toi. Tu es toujours en train de faire trois choses en même temps. Et à quel moment ça te laisse de la place pour te reposer, pour être créatif, pour prendre un peu de distance, tout simplement pour être bien. ça devient vraiment le temps de cerveau disponible, ça devient une ressource de plus en plus limitée.
Ça va encore plus loin pour moi parce que mes AirPods que j'adore vraiment, me permettent d'avoir toujours soit une vidéo YouTube en son ou un podcast ou un audiobook dans les oreilles pendant que je vais me balader dans la forêt, et ce que je fais moins maintenant parce qu'il y a les enfants, mais ou que je fais la vaisselle ou que je fais le ménage. Tu vois, je suis jamais pas activé. Mais tu parles de...
Mais rassure-moi, tu n'es pas en train d'écouter un podcast pendant que tu es en train de discuter. Je commence à m'inquiéter. Il y a des moments où je te voyais regarder ailleurs, être dans une sorte de flottement. Ça va ?
Excuse-moi, je n'ai pas bien suivi ce que tu disais. J'étais en train de regarder une vidéo de la chaîne Benjamin Lubzinski, qui est vraiment passionnante. Je ne sais pas si tu la connais. Mais attends, tu me disais quand même que tu as une PlayStation 5, que tu as ton Apple Watch, que tu as des téléphones et tu es au fait de la technologie. Et maintenant, tu es en train de nous dire que ça nous rend sédentaires et ça détruit notre bien-être. Il y a plus dans cette histoire, il y a un juste milieu, c'est ce que tu essayes de nous dire, j'imagine. Alors, puisque...
Déjà, je me pose pas en donneur de leçons parce que tout ce que tu fais, je le pratique aussi et j'essaye de m'en sortir et c'est pas si facile que ça. Par exemple, je parlais des commentaires sur YouTube, moi j'en reçois beaucoup, plus les réseaux sociaux, etc. Et à un moment, j'étais tout le temps en train de regarder ça. Et je le faisais alors que j'étais en train de donner le biberon à mon bébé. Enfin, franchement, ça devenait du grand n'importe quoi. Donc, j'ai été obligé de me donner des temps dans la journée où je regarde les commentaires, mais j'ai enlevé toutes les notifications sur mon téléphone parce que sinon, tu sais, c'est l'effet buffet à volonté. Tu vas dans un resto, il n'est pas très bon, mais il y a un buffet à volonté. Il y a tellement de choses, tu peux avoir tellement de satisfaction de tous les côtés. Tu vas faire des assiettes énormes, tu vas te remplir, tu ne vas pas pouvoir t'arrêter. Et ben, pour moi, Internet, les réseaux sociaux, c'est un buffet à volonté et il faut faire vachement gaffe parce que c'est très, très, très addictif. Et oui, ce que tu me décris, c'est vraiment, t'es dans le FOMO, la peur de rater quelque chose, qui est une vraie addiction. Mais on n'invente rien, on peut devenir addict de tout et n'importe quoi. Si tu prends Madame Bovary de Flaubert, la pauvre, elle était addict au roman et on la pointait déjà du doigt. Donc elle avait un problème qui te ressemblait. Elle ne pouvait pas passer 10 minutes sans avoir le nez plongé dans un roman. Il y a une tendance à la diabolisation qui est trop forte, mais tu vois...
Mais ça ne veut pas dire que le problème n'existe pas vraiment, en fait, c'est ce que...
Non, mais ça demande encore beaucoup d'investigation.
Ouais, on n'a pas de réponse définitive sur ces sujets, de réponse scientifique solide. C'est vrai qu'on a je ne sais pas si tu veux en parler, mais on a une question sur les problèmes liés aux jeux vidéo qui a beaucoup évolué. Il y a quelques... Je dirais une ou deux décennies, c'était vraiment diabolisé, comme tu le disais. Aujourd'hui, les discussions sont un petit peu plus nuancées et subtiles. Surtout que beaucoup de gens aujourd'hui pratiquent le jeu vidéo, donc savent de quoi ils parlent dans ces domaines aussi. Il y a la question du FOMO que tu as évoqué plusieurs fois. Tu peux nous expliquer exactement ce que c'est le FOMO ? Je pense que beaucoup de gens ont entendu l'acronyme, c'est Fear of Missing Out, donc la peur de rater quelque chose. Mais c'est ça qui nous pousse à checker Twitter 12 fois par minute et donc à Twitter de supprimer le flux chronologique pour pouvoir nous mettre les tweets les plus intéressants et nous en rajouter toujours plus à chaque fois qu'on rafraîchit le flux. C'est quoi le FOMO ?
L'esprit humain est très mal équipé pour résister à des petites tentations. C'est-à-dire que quand on lui tend une petite friandise, un petit sucre, sur des temps très courts, on va avoir tendance à en vouloir toujours plus et toujours plus. Et ça, quelle que soit la chose qu'on nous présente, donc que ce soit de la nourriture ou que ce soit la petite satisfaction de voir le nombre de likes qu'on peut avoir sur YouTube ou les gens qui ont réagi sur Instagram, sur un post, etc. Et c'est effectivement... Et très, 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 très addictif. Et Instagram et les réseaux sociaux, on a vu des études là qui étaient pour le coup plutôt sérieuses, qui ont montré aussi que ça nuisait énormément à l'estime de soi. Donc ça augmente le stress, ça crée une dépendance, ça empêche de faire d'autres choses pendant ce temps-là qui nous équilibre, auquel on tient. Donc c'est vraiment une pathologie. Mais là, On n'a pas de chiffre très sérieux sur le FOMO, parce qu'il faudrait dire, bon, à partir de tel nombre d'allers-retours sur Facebook ou sur Insta ou autre, ou Twitter, tu souffres de FOMO. On n'a pas encore des critères comme ça, mais ça touche une grande partie de la population, moi y compris. Moi, il faut que je fasse toujours gaffe pour ne pas sombrer là-dessus. Pour ce qui est des jeux vidéo, on est quand même sur des chiffres qui sont beaucoup, beaucoup plus petits, 1,5% de la population. L'OMS, maintenant, l'Organisation mondiale de la santé, considère que c'est une vraie addiction et ça fait partie des pathologies mentales. Mais c'est vrai qu'entre ce qu'on disait il y a 10 ans et maintenant, quand on en parle, les avis ont vraiment changé. Alors, d'abord parce que ceux qui étaient des jeunes cons qui jouaient aux jeux vidéo sont devenus des vieux cons. Donc, ils auront du mal à dire que c'est une mauvaise chose. Quand ils étaient jeunes, déjà, ils écoutaient du rap et ils jouaient aux jeux électroniques. Tu vois, donc, ils auront du mal à le critiquer, ça joue. Alors, en général, on critique toujours la génération précédente et la génération suivante, mais aussi parce que les études ont quasiment conclu à rien. Il y a une étude très connue de l'American Psychological Association qui a montré que les jeux violents augmentaient un petit peu le comportement agressif. Mais un petit peu. Et puis finalement, ça a été pas mal réfuté par la suite. On a considéré que c'était pas très valable comme étude. Et puis, on a même vu en 2015 que lorsque sortait un jeu de vidéo vraiment violent et populaire, les cas de voies de fait graves, donc les violences et les homicides, ont tendance à baisser. Alors, je ne sais pas si c'est parce que tous les serial killers se mettent à jouer sur le jeu en question. C'est peut-être le cas. Mais en tout cas, ça tend à prouver que ça n'a pas un effet sociétal monstrueux, que ça n'augmente pas forcément l'agressivité. Et alors, il y a un autre chiffre que je voulais te donner et que je trouve assez sidérant. Aux États-Unis, comme tu le sais, il y a beaucoup de meurtres et des tireurs dans les écoles. C'est un phénomène qui est très, très, très courant. Et il se trouve que 20% seulement de ces meurtriers jouent aux jeux violents, alors que 70% du reste de la population y joue. La population de cet âge, évidemment. Donc, a priori, le jeu vidéo ne déclenche pas de l'agressivité, ne change pas violemment nos cerveaux, même les plus violents. Donc, c'est quelque chose qu'il faut remettre en cause. Mais tu vois, c'est un mouvement qui est très marrant, quoi. Moi, je me souviens, en cours de latin, on me parlait de Pline l'Ancien qui se plaignait de la déchéance de la société, de la décadence romaine. Le rock, quand c'est sorti, Elvis Presley, c'était l'instrument du diable, son déhanché était sexuel et diabolique. Et quand je faisais mes études dans une école catho, on me disait « Mais attention, le hard rock, c'est diabolique. Il vénère Satan. Parfois, quand on écoute la bande-son à l'envers, on entend des mots et il y a des messages subliminaux. » Donc, tu vois, dès qu'il y a quelque chose...
Tu parlais
chose
de Madame Bovary tout à l'heure. C'est le cas également pour les romans au début à l'arrivée de l'imprimerie et à la popularité des romans, ça a également été très critiqué, et la jeunesse qui se perd dans ces mondes imaginaires, etc., etc. C'est clairement quelque chose de cyclique. Mais sur le jeu vidéo, sur les questions d'agressivité, ça semble être plutôt réfuté. Par contre, pour une petite partie de la population, ça peut être, je ne sais pas, le catalyste de d'autres problèmes. C'est ce que tu semblais dire tout à l'heure.
C'est le problème, c'est que c'est un refuge très facile. Donc, que ce soit fumer du cannabis ou jouer à des jeux vidéo ou regarder Netflix non-stop, c'est des choses qui sont vraiment tellement faciles que quand on a des problèmes, on peut s'isoler à cause de ces comportements. En ce moment, j'ai un patient, il joue facilement 12 heures par jour. Il me disait, mais moi, j'ai aucun problème dans mes études. Toutes les heures, j'arrête mon jeu vidéo, je continue à le faire, mais je suis moins impliqué. Et puis, je fais un peu mes devoirs pendant 10 minutes et puis je recommence une heure. Et puis, comme ça, sur toute la journée. Et il n'avait pas l'air de trouver ça un peu délirant. Ou peut-être que tu faisais ça toi aussi quand t'étais jeune.
Il a pu m'arriver pendant certaines périodes de ma vie de jouer beaucoup. 12 heures, ça fait quand même beaucoup. Oui, on est d'accord, mais je dois avouer que j'étais peut-être pas si loin pendant certaines périodes de ma vie. C'est peut-être pas forcément les plus productifs. Encore que, ça dépend. Mais bon.
Oh, ça pouvait être les plus sympas, hein, c'est possible.
Ça peut jouer.
Mais disons qu'on n'a pas à considérer que c'est une nocivité particulière par rapport à d'autres divertissements et d'autres dérivatifs. De toute façon, comme disait Sénèque, hein, l'excès est un vice en toute chose. Donc, dès que tu as un comportement et que tu le fais à l'excès, ça devient dérangeant. Mais on voit de plus en plus maintenant des adultes, des jeunes qui ont une attitude responsable vis-à-vis des jeux vidéo, qui arrivent à peu près à canaliser ça. Mais c'est vrai que malgré ce qui... Toi, c'est pas forcément le jeu vidéo, moi, qui m'inquiète. C'est que quand on a les réseaux sociaux, les jeux vidéo, Netflix, Disney+, Amazon Prime, comment fait-on pour de temps en temps ne pas être devant des écrans? Quand tu vas maintenant dans un train ou dans un métro, les gens, ils sont sur leur téléphone portable. Presque personne lit un bouquin ou presque personne regarde par la vitre. Oui. Ça fait très vieux con de dire ça, mais ça montre un changement de psychologie et un changement de comportement qui est extrêmement fort, et ça mérite d'être étudié sans y aller avec des préjugés. Et puis aussi, par exemple, des jeux vidéo, quelqu'un qui joue à Candy Crush ou quelqu'un qui joue à Call of Duty, c'est peut-être pas le même effet sur les pensées, hein. C'est pas la même chose. Ou Animal Crossing ou peu importe. Oui, oui. Donc,
peut-être plus.
Il y a beaucoup de préjugés.
Ouais. Des choses par exemple, à étudier plus spécifiques.
Pardon. Est-ce que tu joues avec ton fils aux jeux vidéo?
Oui.
Ou
alors.
Tu dis, il est trop petit, pas d'écran.
Oui, il est un peu petit. Non, il a 3 ans et demi maintenant. On a été très vigilants sur les écrans, vraiment. Je te dis pas qu'il a jamais vu un écran avant ses 3 ans parce que ça serait pas vrai, mais c'était très limité. Et puis nous, on regarde pas la télé, tu vois, la télé, elle est jamais en fond. Donc, bref, tout ça pour dire qu'on joue un petit peu, effectivement. Il aime bien Mario Kart. On a joué un petit peu à Mario Odyssey aussi. Il avait très peur des fantômes, donc il courait en rond ici et là. Et puis, je le fais jouer un petit peu à Overwatch dans la zone d'entraînement, et il aime casser les robots. Bon, je le dirige un petit peu plus vers Mario Kart maintenant, parce que c'est un peu moins...
C'est plus mignon. Hein.
C'est plus approprié, on va dire. Parce que, encore, vraiment, je crois que casser les robots dans la zone d'entraînement, ça va, c'est vraiment un truc mécanique. Mais il commence à se poser des questions sur, alors attends, ça c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe quand t'appuies sur ce bouton? Qu'est-ce que tu... Donc on va dire, bon, Overwatch, on va mettre de côté pour quelques années encore, et puis on va se diriger vers Mario, ça va être mieux. Mais moi, j'ai très hâte qu'il puisse me porter mon équipe sur Overwatch pour me sortir enfin du rang or que dans lequel je suis coincé depuis bien trop longtemps, alors que je mériterais d'être bien plus haut en compétitif, tu vois. Mais oui, donc
tu sais qu'à 6 ans, il risque d'être déjà meilleur que toi. Hein,
mais c'est ce sur quoi je compte. C'est ce sur quoi je compte, tu vois. Je veux qu'il me carie dans les rangs un petit peu plus élevés, tu vois, que grâce à lui, je puisse arriver un petit peu plus loin. Ça sera triché un peu, mais en même temps, c'est mon fils, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai éduqué. Donc finalement, c'est pas si triché que ça.
Tout ce qu'il va faire jusqu'à 90 ans, ce sera ta réussite. Et ta fierté.
Exactement.
Mais pourquoi je te posais la question, c'est parce que, par exemple, on dit interdiction aux enfants de regarder un écran avant l'âge de 3 ans, limiter excessivement jusqu'à l'âge de 6 ans, etc. Et bon, c'est évidemment, il ne faut pas mettre son enfant devant la télé ou devant des jeux en permanence, ce n'est pas bon pour son développement, il n'a pas besoin de ça au départ. Mais quand tu accompagnes un enfant sur des jeux de développement sur l'iPad, par exemple, ou sur une tablette, ou bien quand tu passes du temps avec ton enfant à jouer aux jeux vidéo, mais à deux, comme Mario ou Yoshi, ou tu vois, des trucs comme ça, ça fait un temps excessivement qualitatif. Et si tu passes 1 heure de temps en temps, je suis persuadé que ça n'a aucun impact nocif, bien au contraire, et que ça permet de développer la concentration, les réflexes et plein d'autres compétences dont ils ont besoin. Il faut simplement pas que ce soit en trop grande quantité, il ne faut pas qu'il le fasse seul. Mais c'est pour ça qu'il faut passer d'une période qui est une période de préjugés et de posture presque politique sur le jeu vidéo et sur le numérique, pour vraiment se poser la question de ce qui est bon et de ce qui l'est moins, et de la manière d'accompagner les changements. On n'arrête pas le progrès, c'est une évidence. Et il y a une phrase que j'aime bien qui est de Marx. Alors, c'est désolé, hein, ça fait un peu prétentieux. C'est les superstructures sont toujours en retard sur des infrastructures. Ça, ouais, c'est effectivement, ça fait
non,
un peu
mais
prétentieux.
Ça se comprend, oui.
L'idée, c'est que la société évolue plus vite que notre manière de la comprendre. Et avec le numérique, avec la technologie, il y a un emballement qui est sidérant. En fait, on ne sait pas encore comment bien vivre le numérique, comment bien s'y adapter. Et on est en train de découvrir ça au fur et à mesure. Mais pour moi, ça demande de revenir sur ses préjugés et de vraiment faire des études sérieuses. On est au tout début.
J'aime beaucoup cette approche et puis l'idée que effectivement on peut avoir des a priori sur certaines choses qui se s'avéreront justes ou non, mais que l'important c'est de bien étudier, d'avoir des données concrètes et des études sérieuses pour comprendre les effets et les impacts, et c'est ça qui est le plus important. Donc ça me paraît être une bonne conclusion pour notre discussion, mais je vais quand même tenter le diable et te proposer de nous parler d'autres choses qu'on n'a peut-être pas eu le temps d'évoquer, si tu veux, en quelques minutes pour conclure. Ouais. Il y a peut-être des sujets dont j'ai pas parlé.
Moi, je voulais revenir sur quelques outils technologiques qui peuvent être très intéressants pour aller mieux. Il y a des choses toutes bêtes qui ont un impact énorme sur la psyché. Il y a par exemple la luminothérapie, c'est un truc tout bête. C'est des LED qui reproduisent la lumière du soleil. Or, on sait que ça permet de se caler pour le sommeil. Donc, ça permet de s'endormir plus facilement et plus rapidement. Donc, ce sont des outils qui pourraient se généraliser. Et on sait qu'à peu près 30% de la population est touchée par ça. Donc, par exemple, et aussi notamment en Finlande, hein, je veux dire, dès qu'il y a moins de soleil, ça a un vrai impact sur la psyché. Et ça, c'est une technologie pas chère, hyper simple à mettre en place. Mais en gros, bah voilà, si on est déprimé, à partir du mois d'octobre, chaque année, il faut penser à ça. Et ça évitera de passer de mauvais mois d'hiver où on va avoir tendance à compenser sur la nourriture. Il y a plein de technologies qui sont hyper prometteuse. Moi, ce que je trouve passionnant, par exemple, c'est l'impact de nouveaux algorithmes et de l'IA pour la détection des problèmes psychologiques. Je me souviens, il y a 10 ans, j'avais vu, je crois que c'était Sony qui faisait ça, c'était un programme qui permettait de voir après quelques dizaines de minutes si tu étais déprimé ou pas. Je trouve ça assez ridicule parce que quand tu dis à quelqu'un, bon, bah, est-ce que tu te sens anesthésié? Oui, bon, bah, t'es déprimé. Tu as une question à poser. Mmh. Mais Facebook, en lançant un algorithme, un programme qui permet de détecter les risques suicidaires, est passé au-dessus. C'est-à-dire que par rapport à cette époque-là, maintenant, on donne tellement de données de soi sur les réseaux sociaux et ailleurs qu'on peut détecter des choses qui sinon passeraient sous les radars. Et ça, je ne sais pas si ça a été généralisé en Europe parce qu'au début, ils ne voulaient pas le faire, mais j'ai commencé à trouver ça à partir de ce moment-là très intéressant. Mmh. Avec l'intelligence artificielle, maintenant, on peut détecter Alzheimer 6 ans avant que ce soit détectable. Donc, on arrive à le détecter avant que ce soit trop tard. Et moi, ce dont je rêve, c'est d'une IA, mais ça arrivera forcément, qui arrivera à prévenir les problèmes avant qu'ils arrivent. Parce qu'on sait déjà qu'il y a des choses qui permettent de faire des prédictions. Quelqu'un qui se retrouve à la retraite, il va devenir certainement déprimé s'il n'est pas actif. Quelqu'un qui perd son job, etc. Mais avec l'IA, on va avoir tellement d'informations qu'on va pouvoir croiser. Ça fait un peu flippant quand on dit ça, mais au moins, on va pouvoir détecter les problèmes.
On a tendance à considérer ça comme un problème plutôt qu'une solution, mais c'est intéressant de se dire que c'est un mal pour un bien, peut-être, se dire que ça peut, en analysant toutes ces données... créer des opportunités d'aider les gens, quoi.
Bah, de toute façon, on les transmet déjà, ces informations. Donc, autant qu'elles servent à aider à notre santé mentale. Mais par exemple, le burn-out, l'épuisement professionnel, ça arrive tellement vite. Si on pouvait utiliser tous les indicateurs qu'on donne sur le net, notre manière de travailler, de nous exprimer, et de dire, attention là, calmez-vous, vous êtes en train de filer droit vers un burn-out, ce serait formidable, de la même manière que ça pourrait nous aider au diagnostic. C'est-à-dire, quand un patient nous parlerait, on dirait, tiens, il y a des indices, peut-être que ce patient-là souffre aussi de ça. Et tu vois, comme ça permettrait d'ouvrir notre manière de considérer, de considérer notre travail. Donc, je suis très enthousiaste. Et pas uniquement parce que je suis technophile, aussi parce que je sais que dans 10 ans, enfin, l'un des plus vieux métiers du monde, il n'y a pas que le plus vieux métier du monde qui est très connu, aussi la psy, qui est l'un des plus vieux métiers du monde, il y a toujours eu des gens pour écouter et aider les autres, je sais que dans 10 ans, ça ne ressemblera absolument pas à ce qu'on fait maintenant, et ça, c'est passionnant.
Je pense qu'il faut envoyer un email à Tim Cook pour demander à Apple d'arrêter cette tendance à protéger les données privées, puisque leur analyse peut nous permettre de... Non, mais c'est vrai que c'est intéressant, parce qu'il y a une tendance à plutôt refuser le partage de ces données, qui pourrait... Bon, je vous avoue que je n'ai pas beaucoup de doutes sur le fait que les gens vont continuer à utiliser Facebook, mais c'est vraiment intéressant cet éclairage sur cet aspect de la technologie auquel je n'avais pas forcément pensé. Et effectivement, avoir ça en appui pour les psys pourrait être un outil hyper utile pour mieux faire leur métier. Donc, très intéressant. Merci beaucoup, Benjamin. C'était absolument passionnant. On pourrait en parler encore pendant des heures et peut-être qu'on aura l'occasion de le refaire à un moment. Mais si les auditeurs veulent un petit peu plus de ton expertise, avant qu'on se quitte, où est-ce qu'ils pourraient aller pour te retrouver ? On parlait de ta chaîne internet, mais il y a peut-être d'autres choses.
Alors, il y a ma chaîne YouTube, faut taper Benjamin Luzinski.
Ta chaîne internet, ta chaîne YouTube, ta chaîne sur les autoroutes de l'information. Oui, ok. Pardon, vas-y.
Oui, effectivement. Donc, il y a ma chaîne YouTube. Il suffit de taper Benjamin Luzinski et quel que soit l'orthographe, vous tombez dessus. J'aurais dû choisir Note Benjamin, mais ça devait déjà être pris. Et sinon, j'ai un podcast que je fais avec Le Figaro qui s'appelle Inspiration, avec des séances d'hypnose et aussi où j'invite des gens qui sont absolument passionnants et je leur fais parler d'eux-mêmes en profondeur. Et j'ai eu la chance d'avoir des gens passionnants comme Bertrand Piccard, qui est un type qui a créé un avion solaire et qui a fait le tour du monde avec. Enfin, c'est vraiment, ça a été de très, très belles rencontres. Et puis, j'écris des livres aussi. Le dernier s'appelle Bien dormir. Ça s'apprend. Le prochain s'appellera Être zen, ça s'apprend. Et j'espère bien qu'il y en aura d'autres. Et puis je suis sur tout, hein, sur Facebook, Insta. Donc j'ai parlé Twitter, comme un psy de ces problèmes, mais en fait je suis tout autant impatient. Faut être clair. Hein. Mais qui mieux que le pêcheur peut parler du péché ? Je te le demande, Patrick.
Je ne prendrai pas le risque de répondre à cette question. Tu as un compte Twitter aussi ou c'est...
J'ai même un compte Twitter.
Bah écoute, tu me le donneras. Et on le mettra dans les liens de l'émission, évidemment. Merci beaucoup, Benjamin. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook, Instagram, vous le savez. Je suis également sur notepatrick.com pour avoir les liens vers tous mes podcasts. Vous retrouverez évidemment le rendez-vous tech que vous écoutez déjà, donc ça vous connaissez. Il y a aussi le rendez-vous jeu, si vous appréciez le jeu vidéo. Et quand on parle du jeu vidéo de manière, j'espère, intelligente. Et si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez le faire sur patreon.com/rdvtech. On est évidemment très heureux de recevoir le soutien des formidables auditeurs qui se transforment en patriotes. C'est une somme modique et j'espère que ça vous donne une immense fierté de contribuer à l'émission. C'est sur patreon.com/rdvtech. Merci à tous ceux qui le font déjà. On se quitte là ? Oui, Benjamin ?
Oui, j'avais juste un truc à dire. Il y a une étude en thérapie cognitive et comportementale qui a prouvé qu'être généreux rendait heureux et plus calme. Donc, si ça ne pousse pas à aller sur Patreon, je ne trouve pas d'autre argument.
Écoute, il va falloir qu'on ait une autre discussion sur les meilleures méthodes pour dire aux gens ce qu'ils veulent entendre pour devenir patriote. On va adapter mon message dans les émissions, on en discutera. Bon, merci en tout cas Benjamin, merci à tous et à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao, ciao!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.